Vous écoutez, on lit pour vous.
Tabac, réseaux sociaux et intelligence artificielle, même déni, même tort. En sous-titre, la dépendance n'est pas un accident de parcours, elle est le produit. Texte signé Christian Clavette, qui est professeur adjoint à la faculté de droit de l'Université de Moncton. Son texte est publié dans Le Devoir du 8 avril 2026. Pour la toute première fois, un jury américain a reconnu les géants des réseaux sociaux responsables de négligence envers une utilisatrice. En mars dernier, la Cour supérieure de Los Angeles, en Californie, a jugé Meta et Google coupables d'avoir conçu les algorithmes d'Instagram et de YouTube de manière à créer une dépendance chez leurs utilisateurs. Ce verdict, rendu dans le cadre d'un procès pilote regroupant plus de 1600 plaignants, marque un tournant. Ce n'est pas le contenu publié sur ces plateformes qui est mis en cause, mais leur architecture même, et avec elle, une stratégie de défense que l'on croyait révolue refait surface. Pendant des décennies, les cigarettiers ont nié les effets nocifs de leurs produits tout en dissimulant leurs propres études démontrant le caractère addictif de la nicotine. Leur défense reposait en partie sur la rhétorique du choix individuel. Fumer est une décision libre et le consommateur assume seul les conséquences. Cette stratégie ignorait que près de 90 % des fumeurs adultes avaient commencé avant l'âge de la majorité, et que le produit était conçu pour créer une dépendance. Les plateformes numériques ont repris ce même argumentaire. Des documents internes révélés lors des procédures judiciaires ont montré que Meta savait que ces algorithmes causaient des torts, particulièrement chez les adolescents, et a choisi de ne rien changer. Le jury de Los Angeles a retenu à la fois la négligence et le défaut de conception des plateformes. Le professeur de droit Michael Jess de l'Université d'Ottawa accueille ce verdict avec nuance. Si la négligence des entreprises ne fait, selon lui, aucun doute, la théorie du défaut de conception a ses limites. Le défilement infini et les recommandations algorithmiques ne sont pas des défauts au sens classique du terme, puisqu'ils fonctionnent comme prévu. Le raisonnement du professeur Guest mène toutefois à un constat plus troublant encore. Si ces plateformes causent des torts, non pas malgré leur conception, mais grâce à elles, ce n'est pas un produit défaillant qu'il faut corriger, c'est le modèle d'affaires lui-même qu'il faut remettre en cause. Car c'est bien là que réside le nœud du problème. Les cigarettiers n'ignoraient pas seulement les torts causés par leurs produits, leurs revenus, leur part de marché, leur survie même en dépendait. La dépendance à la nicotine n'était pas un défaut regrettable, c'était le fondement de l'entreprise. La logique des plateformes numériques est analogue. Facebook, Instagram et YouTube reposent sur un modèle où l'attention continue des utilisateurs est captée, mesurée, puis revendue aux annonceurs. Plus l'utilisateur reste longtemps à l'écran, plus la plateforme génère des revenus. La dépendance n'est pas un accident de parcours, elle est le produit. La question qui se pose alors est aussi simple que dérangeante. Ces plateformes peuvent-elles continuer à croître au rythme qu'exigent leurs actionnaires sans cette dépendance? Tout indique que non. Demander à ces entreprises de protéger leurs utilisateurs contre les effets addictifs de leur plateforme revient à leur demander de renoncer à ce qui les rend rentables. C'est ce conflit d'intérêts fondamental qui rend l'intervention du législateur non seulement souhaitable, mais nécessaire. Ce constat rend l'inaction des législateurs d'autant plus difficile à justifier. Aux États-Unis, malgré des audiences au Congrès, où les dirigeants de ces entreprises ont été interpellés à répétition, aucune législation fédérale encadrant la conception addictive des plateformes n'a été adoptée. Ce sont les tribunaux et non les élus qui ont dû tracer la ligne. Au Canada, le projet de loi C-63 sur la sécurité en ligne, déposé en 2024, visait les contenus préjudiciables, mais ne s'attaquait pas au cœur du problème, les mécanismes algorithmiques qui exploitent les vulnérabilités cognitives des utilisateurs. Il est mort au feuilleton en janvier 2025, tout comme la loi sur l'intelligence artificielle et les données, qui devait constituer le premier cadre fédéral d'encadrement de l'intelligence artificielle. Le gouvernement a depuis évoqué de nouvelles initiatives, mais rien n'a été déposé. Or, pendant que les législateurs tardent, une nouvelle vague technologique se déploie en reprenant le même schéma. L'intelligence artificielle générative s'intègre dans le quotidien de millions de personnes à travers des agents conversationnels conçus pour personnaliser l'interaction et fidéliser l'utilisateur. Et déjà, les entreprises qui développent ces technologies préparent leur défense. Dans un livre blanc intitulé « Recommendation for Regulating AI », Google recommande au gouvernement de concentrer la réglementation sur les utilisations plutôt que sur la conception des modèles, arguant que les préjudices surviennent lors de l'interaction avec l'application et non lors du développement du modèle de base. L'entreprise va jusqu'à affirmer que le développeur a peu de visibilité sur la façon dont son produit sera utilisé et que la responsabilité devrait incomber à ceux qui déploient la technologie. Le schéma est familier. Concevoir un produit dont on sait qu'il comporte des risques, en tirer profit, puis en attribuer les conséquences aux utilisateurs. Le verdict de Los Angeles ne devrait pas être lu comme un simple fait divers judiciaire américain. Il devrait être reçu comme un avertissement. Des cigarettiers aux réseaux sociaux et bientôt à l'intelligence artificielle, la même dynamique se répète. L'industrie nie, les citoyens subissent et les tribunaux finissent par intervenir là où les législateurs ont choisi de ne pas agir. Les parlementaires canadiens ont aujourd'hui l'occasion de briser ce cycle avant que l'histoire, une fois de plus, ne se contente de se répéter. Fin de ce texte de Christian Clavette titré « Tabac, réseaux sociaux et intelligence artificielle, même déni, même tort », publié dans Le Devoir du 8 avril 2026.
Article de l'Arctique. Ce que révèle la structure du sol après les séismes au Yukon. Un texte de Nelly Guidici paru le 14 avril 2024 dans le Nunavoie. Trois mois après le séisme de magnitude 7 qui a secoué le sud-ouest du Yukon, une étude publiée par Ressources naturelles Canada apporte un nouvel éclairage sur les effets de secousses sismiques sur les infrastructures de ce territoire. Le 6 décembre dernier, de nombreux résidents de Whitehorse ressentaient les secousses d'un tremblement de terre dont l'épicentre se trouvait sous le champ glaciaire du massif Kluane. D'une intensité de 7 sur l'échelle de Richter, ce séisme, qui n'a fait ni victime ni dégâts, rappelle que le Yukon se trouve dans une zone active. Trois mois après cet événement, une étude de 19 pages a été publiée dans la revue Canadian Geotechnical Journal le 2 mars et a cartographié les propriétés du sol de 14 sites dans la région de Haines Junction, dans le sud-ouest du territoire. Ce village se trouve dans une région tectoniquement active du Yukon et présente des risques naturels importants. Malgré cela, il existe peu de connaissances sur les sites locaux qui influencent l'intensité et la durée des secousses sismiques de tremblements de terre. 14 sites étudiés à la loupe. Par ailleurs, les 14 sites de l'étude ont été sélectionnés en fonction de leur accessibilité, puis en fonction de la nature présumée des terrains. En utilisant des techniques géophysiques qui consistent à mesurer la vitesse de propagation des ondes de cisaillement dans le sol, c'est la rigidité des sols de ces 14 parcelles qui ont été évaluées. En effet, les sites où se trouve du pergélisol réagissent différemment lors d'un tremblement de terre. La principale question mise en évidence par l'étude porte sur la réaction du sous-sol selon qu'il contient ou non de la glace lorsqu'il est soumis à un séisme de forte intensité, explique Didier Perret, chercheur scientifique à la Commission géologique du Canada à la ville de Québec. Si le sous-sol est suffisamment gelé, la réponse en surface va être relativement faible, et cette donnée a une importance pour la sécurité des personnes et des infrastructures. Même si le séisme est fort et même si on est relativement proche de l'épicentre, comme ça a été le cas lors du séisme de décembre 2025, les vibrations ressenties dans des secteurs où le sous-sol est gelé sont moins importantes que lorsque le sous-sol est dégelé, indique le chercheur. Les risques naturels engendrés par les processus tectoniques régionaux sont localement amplifiés par des processus géomorphologiques actifs, notamment les processus fluviaux de désadèche, le dégel du pergélisol discontinu et les inondations lacustres relativement récentes, post-glaciaires et néoglaciaires. Combinés, ces facteurs contribuent à la vulnérabilité de la région de Daquequeda, Haines Junction, aux risques naturels. Canadian Geotechnical Journal. Dans un contexte de réchauffement climatique, une surveillance saisonnière et à long terme est préconisée par les scientifiques de Ressources naturelles Canada. Courtoisie Ressources naturelles Canada. Assurer la sécurité. Les résultats de l'étude soulignent que, dans un contexte de réchauffement climatique qui sévit dans le Nord et qui affecte directement le pergélisol, une surveillance saisonnière et sur le long terme est nécessaire. De plus, l'équipe de scientifiques derrière cette étude recommande la réalisation de nouvelles cartes afin d'évaluer avec précision la variabilité de l'amplification sismique liée au site, dont la structure peut être amenée à évoluer au fil du temps. Connaître les sites potentiels où le pergélisol est plus dégradé est essentiel, selon M. Perret. En effet, ces sites pourraient représenter des risques plus accrus pour les infrastructures en cas de séisme dans le futur. Les constructions qui peuvent être situées sur ces terrains peuvent s'enfoncer. À certains points, elles peuvent basculer également, et donc ça présente un risque non seulement pour les constructions, mais aussi pour la population. Didier Perret, chercheur scientifique à la Commission géologique du Canada. C'était « Ce que révèle la structure du sol après les séismes au Yukon », un texte de Nelly Guidici, paru le 14 avril 2024 dans le Nunavoie.
L'ABC du renforcement musculaire, un texte de Catherine Enfield, paru le 12 avril 2026 dans La Presse. Quand on pense aux recommandations en matière d'activité physique, on pense spontanément au cardio. Mais on a tendance à oublier ou à négliger la musculation. Comment faire ça simplement? Explication et exemple. Moins populaire. Historiquement, les lignes directrices en matière d'activité physique étaient axées sur la forme cardio-respiratoire, donc la marche, la course, le vélo, la natation, etc. Au tournant des années 2010, les grandes organisations, dont l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ont ajouté un deuxième volet à leurs recommandations. Des activités de renforcement musculaire au moins deux fois par semaine. Et cette deuxième dimension est moins populaire. Au Canada, environ le tiers des adultes font de la musculation, alors que près de la moitié disent faire leurs 150 minutes d'activité cardiovasculaire par semaine, selon Participation. Bien fait. Pourquoi avoir ajouté l'entraînement musculaire aux lignes directrices? Parce que les études qui soutiennent ces bienfaits s'accumulent. On s'est rendu compte que ça ne servait pas seulement aux gens qui font de la compétition, résume Ahmed Jérôme Romain, chercheur en kinésiologie et professeur adjoint à l'Université de Montréal. Les exercices de renforcement musculaire sont associés à une diminution du risque de mortalité, rien de moins, et à une meilleure santé cardiovasculaire, métabolique, musculo-squelettique et mental. Le professeur Romain a récemment mis en lumière son impact positif sur l'anxiété. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne prend pas de grosses quantités, dit-il. Indépendance. En vieillissant, la musculation permet aussi de mieux fonctionner au quotidien. Se lever d'une chaise, monter les escaliers, transporter des sacs d'épicerie. C'est l'un des meilleurs outils dont nous disposons pour maintenir la force, les muscles, la mobilité, la fonction et l'indépendance, nous écrit Stuart Phillips, professeur au département de kinésiologie de l'Université McMaster et co-auteur de la plus récente position sur le sujet du Collège américain de la médecine au sport, publiée en mars. Simplicité. La musculation a néanmoins un problème d'image, constate Stuart Phillips, parce que de nombreuses personnes l'associent encore au gym, au miroir, au poids ultra-lourd et au jeune corps athlétique. L'entraînement musculaire n'a pas du tout besoin de ressembler au culturisme, dit-il. Ça consiste simplement à solliciter ses muscles pour qu'ils restent forts et fonctionnels. La chose la plus importante, c'est de commencer simplement, indique Stuart Phillips. On peut utiliser le poids de son corps, des élastiques, des haltères ou même des bouteilles d'eau. L'idée, se concentrer sur quelques mouvements de base et les répéter, dit-il. Pensez à pousser, tirer, vous lever et vous asseoir, soulever ou porter quelque chose, résume-t-il. De 8 à 12 répétitions. L'entraînement en résistance peut évidemment prendre différentes formes selon l'objectif. Si on cherche simplement à travailler l'endurance musculaire, on peut travailler tour à tour les principaux groupes musculaires. Bras, jambes et tronc, indique le professeur Ahmed Jérôme Romain. Pour chaque exercice, on vise d'abord 2 ou 3 séries de 8 à 12 répétitions. Les séries devraient être entrecoupées de 60 à 90 secondes de pause. On peut aussi rester dans un flow et se dire que pendant le repos des bras, on s'occupe des jambes, et pendant le repos des jambes, on s'occupe du dos, résume Ahmed Jérôme Romain. Temps total de 20 à 30 minutes si possible, mais tout ce qui est fait est bon, mentionne-t-il. Progression. Mieux vaut commencer doucement, surtout si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entraîné. Dans les premiers temps, l'effort ne devrait pas dépasser 5 ou 6 sur 10, indique Ahmed Jérôme Romain. Vaut mieux commencer par du trop léger que par du trop lourd, parce qu'il y a des risques de se blesser quand c'est mal fait, dit-il. On peut ensuite augmenter progressivement, selon ses capacités et son niveau de confort. Le but n'est pas d'être parfait. C'est de créer l'habitude, souligne le professeur Stuart Phillips. Même quelques sessions courtes et bien conçues, faites de manière constante, peuvent être très efficaces. Motivation. Comment rester motivé? La clé. Planifier ce qu'on va faire et l'associer à des activités déjà prévues à son agenda. Si j'ai quelque chose de midi à 13 heures, alors ça va être plus facile d'enchaîner à 13 heures sur ma séance d'entraînement que si je l'inscris à mon agenda de façon déconnectée du reste, résume Ahmed Jérôme Romain. On peut aussi intégrer de petites touches de musculation ça et là dans sa journée. Des flexions avec les sacs d'épicerie, des squats pendant les pauses publicitaires. Qu'est-ce que vous avez dans votre environnement qui va vous permettre de bouger et de faire l'activité physique dont vous avez envie? C'était l'ABC du renforcement musculaire, un texte de Catherine Enfield, paru le 12 avril 2026 dans La Presse.
La mère de tous les pigeons de New York. Un texte de Richard Etu, paru le 5 avril 2026 dans la presse. Entouré de ses sculptures souples en feutre, représentant des pigeons et des rats dans un secteur ensoleillé de l'Union Square Park à Manhattan, Mère Pigeon interrompt sa conversation avec un journaliste pour répondre à un courriel. « Ça vient de Louis Vuitton », précise-t-elle en faisant référence à la marque de luxe française. Après avoir envoyé sa réponse, l'artiste performeuse de 61 ans dit à son interlocuteur venu à sa rencontre « Ils veulent que je participe à une campagne publicitaire. Je leur ai dit que je ne porterai ni fourrure, ni cuir, ni plume. » Assise en tailleur, Mère Pigeon de son vrai nom Tina Pigna, Trachtenberg, est vêtue d'un manteau recouvert de pièces de tissu en forme de plume. Sur la tête, elle porte un chapeau fleuri sur lequel niche un pigeon. Tout est très usé, un peu miteux, dit-elle en parlant de son accoutrement. J'adore le côté miteux. Et bien que son look semble avoir séduit Louis Vuitton, il déconcerte certains New-Yorkais. Ainsi, quand elle prend le métro, Mère Pigeon se rend compte que les passagers refusent de s'asseoir à côté d'elle. « Ils pensent que je suis folle, que je suis une sans-abri, » dit-elle. Elle n'est ni folle, ni sans-abri. Elle vit avec son mari, musicien et dramaturge, dans un appartement de Bushwick, à Brooklyn. C'est là que se trouve l'atelier où elle transforme des animaux mal aimés en œuvres d'art, pour reprendre ses mots. Mais son action ne se limite pas à cette activité artistique qui lui permet de gagner sa vie depuis 12 ans. Elle comprend aussi la lutte contre les braconniers qui piègent les pigeons de New York, surnommés « rats ailés » par leurs détracteurs, et les destine à une mort cruelle en Pennsylvanie. « Le tir aux pigeons vivants est toujours légal en Pennsylvanie », explique celle qui se fait également appeler « Madame Pigna » entre deux conversations ou transactions avec des curieux ou des clients. Tôt le matin, ces braconniers se rendent dans les parcs de New York où ils attrapent des pigeons avec de grands filets à papillons. Vendus à des intermédiaires, les oiseaux sont ensuite transportés en Pennsylvanie dans des cages. « Et puis, on les torture avant de leur tirer dessus », dit Mère Pigeon. « On les torture ?»« Oui, on leur rogne les ailes pour limiter leur vol. Ils n'ont aucune chance de survivre au tir. On les met dans des catapultes qui les propulsent dans les airs. Si leurs ailes étaient intactes, ils auraient une chance de s'en sortir. Car mes pigeons sont très forts et très courageux. Vos pigeons ?» « Ce sont tous mes pigeons. J'en prends soin comme si c'était mes enfants », dit Mme Pigna en distribuant des graines aux oiseaux. Au printemps 2025, elle a organisé une campagne contre les propriétaires d'un magasin d'oiseaux de Brooklyn qu'elle soupçonnait d'acheter des pigeons issus du braconnage. La police de New York n'a jamais pu confirmer ses soupçons. Mais à la même époque, des policiers ont surpris un homme de 67 ans en train de capturer des pigeons avec un filet à papillons dans Tompkins Square Park à Manhattan. Ils ont ensuite découvert plus de 25 pigeons en cage dans une camionnette garée à proximité. Passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, Dwayne Daly, domicilié à Bushkill en Pennsylvanie, a évité de se retrouver lui-même en cage à la suite d'un accord avec le bureau du procureur de Manhattan, qui a indigné Mère Pigeon et ses compagnons de lutte. « Nous vivons dans une société malade », dit-elle aujourd'hui. Symbole de résilience. James Fee croit savoir pourquoi les pigeons sont maltraités ou mal aimés par certains New-Yorkais. Ils vivent dans la rue, ils fouillent dans les poubelles, ils sont comme les sans-abri, dit cet ancien professionnel du développement des affaires et de la levée de capitaux qui vit dans l'Upper East Side, le quartier le plus huppé de Manhattan. Tout en achetant 35 $ un des petits pigeons de Mme Pigna, qui vend les plus grands 65 $, le New-Yorkais ajoute « Ce sont pourtant des animaux incroyables. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les pigeons voyageurs ont joué un rôle essentiel pour la marine américaine le long de la côte Est. Et ils sont très propres », interjecte Mère Pigeon. Mère Pigeon dénonce la propagande massive dont ont fait l'objet les colombidés importés aux États-Unis de l'Europe, au 18e siècle en tant qu'animaux domestiques. Mais le vent est peut-être en train de tourner. Depuis octobre 2024, une sculpture colossale représentant un pigeon se dresse sur la High Line, parc linéaire suspendu de Manhattan, à l'angle de la 30e rue et de la 10e avenue. Signée par l'artiste colombien Ivan Argote, cette sculpture hyper réaliste en aluminium coulé s'intitule « Dinosaur ». référence à l'échelle de la sculpture ainsi qu'aux ancêtres du pigeon qui, il y a des millions d'années, dominaient la planète. Quelques 18 mois après son installation, le dinosaure d'Ivan Argote doit bientôt être remplacé par une autre œuvre d'art. Mais une pétition ayant recueilli plus de 7000 signatures sur le site change.org réclame que la ville lui fasse une place permanente sur la High Line. Le pigeon est un symbole de résilience et de persévérance et représente New York ainsi que tout ce qu'elle incarne, affirme Brett Tulip, l'initiateur de la pétition. Retirer la sculpture reviendrait à supprimer une œuvre d'art qui est déjà devenue profondément significative pour la communauté en très peu de temps. Intermède musical. À sa façon, Mère Pigeon est elle-même devenue un symbole de résilience et de persévérance. Née à San Antonio, au Texas, dans une famille d'immigrés mexicains, elle est arrivée à New York à la fin des années 1980 avec l'ambition de s'y faire un nom comme artiste. À cette époque, relate-t-elle, j'aspirais à ne pas mener une vie conventionnelle et à devenir à terme une artiste reconnue. Pour moi, faire de l'art, c'était une question de vie ou de mort. Mais devenir connue ou célèbre, ça ne m'importe plus vraiment. Elle a pourtant flirté avec une certaine gloire dans les années 2000 au sein des Trachtenberg Family Slideshow Players, un trio à mi-chemin entre le rock et le vaudeville, dont les chansons étaient inspirées par des diapositives ayant appartenu à des personnes décédées. Son mari Jason chantait en s'accompagnant au piano ou à la guitare. Sa fille Rachel jouait de la batterie et elle chantait en faisant tourner le carrousel d'un projecteur de diapositives. Le spectacle le plus couru à New York allait s'enthousiasmer le magazine Entertainment Weekly avant que le trio ne soit invité sur les plateaux de télévision, y compris celui de l'émission de Conan O'Brien. « Nous avons fait le tour du monde », rappelle Madame Pigna. « Nous étions traités comme des rois. C'était un moment incroyable. » Mais les Trachtenberg ont mis fin à cette expérience épuisante au bout de 6 ans. Et Mère Pigeon s'est mise à fabriquer des sculptures souples d'animaux mal aimés. « Tant que je peux faire de l'art, survivre et vivre à New York, j'ai gagné. Je gagne », dit-elle. Les pigeons de New York aussi. C'était « La mère de tous les pigeons de New York », un texte de Richard Etu, paru le 5 avril 2026 dans la presse.